Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux.
Bonsoir, ça commence bien, toujours.
Chez moi, c'est bonsoir. Hein.
Bonsoir en Europe, bonjour au Québec pour cette nouvelle édition d'Impro Blabla, ce hors-série. On profite de la situation pour voyager à partir de chez nous et faire un petit peu un tour du monde de l'impro. On s'est arrêté au Luxembourg, en France et en Belgique. On s'arrête aujourd'hui à Berlin, en Allemagne, avec Denis Aubert, qui fait partie de la LIBER, donc la Ligue d'improvisation de Berlin, si je ne me trompe pas.
Exactement.
C'est ça. Et pour discuter d'improvisation, de la vie, plein d'autres choses qu'il y a entre les deux. Alors, bonjour Denis, bonsoir, en l'occurrence. Ça va bien ?
Ça va très bien, Armand. Heureux de faire ce duplex transatlantique.
Alors, je voudrais commencer rapidement, savoir un petit peu, toi, en tant qu'improvisateur, ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à Berlin et que est-ce que tu as commencé l'improvisation avant ? Comment est-ce que ça s'est déroulé depuis tes débuts ?
J'ai effectivement commencé l'improvisation à Berlin. J'avais fait un peu de théâtre en langue étrangère, donc en allemand à Berlin. C'est comme ça que j'ai commencé le théâtre, parce que j'avais envie d'en faire depuis longtemps et que mon année Erasmus m'a permis de le faire. Et puis, et j'ai eu envie de faire de l'impro. Je me suis renseigné, je suis allé voir un petit peu de l'improvisation en allemand. Et je suis traducteur de métier, mais j'ai pas compris grand chose, ça allait vite. Et je me suis dit que si je comprenais pas leurs blagues en tant que spectateur, ça allait être difficile de les suivre en tant que joueur. Et j'ai découvert qu'il y avait un projet d'improvisation qui existait déjà et qui était mené par Marjorie Nadal. Je me suis inscrit à un atelier d'improvisation qui était un atelier d'improvisation franco-allemand, en français et en allemand. C'est comme ça que j'ai commencé, et c'était il y a quelques années.
D'accord. Donc toi, ça fait depuis combien de temps que tu es à Berlin exactement ?
Moi, ça fait 15 ans que je suis à Berlin.
Parfait.
J'ai commencé en 2011.
Donc, tu es français d'origine, si je ne me trompe pas ?
Absolument.
Et donc, le projet dont tu me parles, toi, c'est quelque chose que tu as rejoint en cours de route, mais la LIBER en tant que telle, c'est…
La LIBER est complètement… Ouais, exact. Tu allais dire prolongement, je crois.
C'est ça.
C'est exactement ça. C'est tout à fait né de ça, c'est-à-dire que le format de représentation privilégié, de production d'atelier, c'était le match inspiré de votre modèle, du modèle québécois, du match d'improvisation adapté en multilingue. Et moi, j'ai souhaité continuer ça. Donc, il y a eu des petits, d'autres petits groupes qui se sont formés à partir de ces premières expériences. Et la LIBER a poursuivi, en tout cas, cet héritage du match en particulier. Donc, ça fait en fait 10 ans quasiment qu'il y a des matchs d'improvisation franco-allemand à Berlin. On remplit pas des zéniths, mais c'est très régulier et ça marche bien. Et la LIBER est née de ça en 2017, du coup.
D'accord, donc c'est vraiment c'est un beau projet déjà, mais un projet multiculturel en quelque sorte. Est-ce que vous êtes combien de membres dans cette troupe ou association ?
Alors, c'est pas une association, mais c'est rattaché à une organisation d'intérêt public. Et on est une trentaine à la LIBER cette année, cette saison. C'est lié, effectivement, c'est interculturel au sens où il y a des gens que ça intéresse de jouer en français, il y a des Allemands que ça intéresse de jouer en français, il y a des Français que ça intéresse d'improviser en allemand, il y a des Belges, des Portugais. Ouais. Des...
Okay. Et donc, l'essentiel de vos spectacles sont bilingues ou même trilingues ?
Toujours. Ils sont toujours bilingues au minimum. Trilingue, ça arrive aussi. Donc, le principe de base, c'est qu'on joue en franco-allemand. Et suivant les groupes qu'on rencontre, ce qu'on fait de plus en plus, on le faisait un peu moins au départ, pour plusieurs raisons, mais maintenant on rencontre vraiment très régulièrement d'autres troupes d'improvisation, d'autres groupes. Et à Berlin, on a notamment rencontré un groupe italien, des Italiens qui jouent à Berlin, qui sont installés à Berlin. Et donc on a fait un match franco-italien. Et comme on est un peu joueur, on les a fait jouer en français évidemment. Nous, on a joué en italien et on a aussi joué en allemand parce qu'on est à Berlin, donc on joue en allemand.
Évidemment. Et donc, votre public est essentiellement germanophone également ou ça s'adresse plus à des expatriés ou des.
C'est assez varié. C'est souvent des gens francophiles, je dirais. Pas forcément qui parlent bien français. Il y en a des fois aussi, évidemment, qui ne parlent pas français du tout. Donc, c'est un public assez mixte. Mais en général, il y a une affinité pour le français qui fait qu'on va vers ça plutôt que vers un autre spectacle d'improvisation, du coup. Il y a de la curiosité par rapport à ça, c'est clair.
Donc, si je comprends bien, c'est le projet vraiment articulé autour du match. Ça vous permet de rencontrer, soit faire des matchs entre vous en tant que membre de la Libère, soit pour rencontrer d'autres équipes. Est-ce que les Allemands, le milieu culturel allemand, étaient habitués à l'impro? C'est quoi l'approche qu'ils ont par rapport à ça?
Je rebondis sur ce que tu dis justement sur le match, sur le fait que ça avait un avantage pour nous, c'est-à-dire que les gens connaissaient les conventions. En jouant avec les genres en particulier ou sur des scènes précises, on sait un peu à quoi s'attendre, en tout cas on sait dans quel cadre on va jouer. Du coup, on passe cette barrière-là. On sait à quoi on va jouer, entre guillemets. Donc, c'est un format très, très chouette et intéressant pour ça, pour nous. Y compris quand on ne va pas comprendre par la langue, on sait quand même que, OK, on joue un film d'aventure, on joue un film d'horreur, on a ces contraintes-là et on va jouer ça. Déjà, ça va nous aider. Et du coup, comme j'ai rebondi sur ta question, j'ai oublié la deuxième que tu m'as posée, mais qui était bien aussi.
C'était à savoir, est-ce que justement le
Oui.
milieu allemand, enfin, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais le milieu culturel allemand connaissait ce format-là déjà?
On a finalement joué assez tard avec un groupe entièrement allemand ici, mais on l'a fait il y a 2 ans. On a vraiment fait un match avec un groupe entièrement allemand de Berlin. Et quand je les ai approchés, ils m'ont dit: Ah oui, oui, le match, on connaît, mais on n'en faisait plus. Donc, moi, j'étais parti du principe que ça ne se faisait pas, juste. Mais ils en ont fait et ils ont plus ou moins arrêté d'en faire. Mais ce qu'ils ont, c'est le Theater Sport, qui est inspiré de Johnstone plus directement. Donc, ça a pas mal pris à Berlin. Ça existe toujours. C'est une scène très diverse, la scène d'impro berlinoise, je dirais. Allemande, je peux pas dire, mais berlinoise, oui.
Ok. Est-ce que c'est, je ne sais pas si tu as pu évoluer, tu as déjà vu un petit peu justement le milieu en France ou évoluer un petit peu dans ces domaines. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire?
Il y a des parallèles sans doute sur l'impro, enfin, sur le théâtre improvisé. Par contre, ce qui est très frappant, c'est que vraiment le format classique en France, c'est le match, ou ça l'a été en tout cas. Il y a de plus en plus d'autres formats qui se développent, mais vraiment le match et les ligues d'improvisation sont hyper répandues. Ce n'est pas du tout le cas à Berlin et c'est très peu le cas en Allemagne. Il n'y a pas un autre groupe à Berlin qui fait exactement ça. Ça se trouve pas en tant que tel. Il y a du Theater Sport, comme je disais, un petit peu, pas tant que ça. Ils font la séparation entre le court et le long, entre le long forme et les improvisations courtes. Ils font des spectacles qu'on appelle où ils parlent de games. Donc, ils font des jeux.
Le genre du cabaret.
Donc, ça fait penser aussi au Theater Sport. Genre de cabaret, voilà, des choses comme ça. Je connais pas, enfin, je connais pas intimement, je connais un peu extérieurement la scène française. J'ai pas beaucoup évolué. Mais de ce que je vois de l'extérieur, la scène berlinoise est, en tout cas, beaucoup moins sur le match. Et de ce que j'ai vu aussi à Berlin, la scène est très. Il y a les jeux d'un côté et il y a de l'improvisation plus dramatique. Ils ont un lien avec le théâtre traditionnel ou une envie de raconter des histoires plus intenses ou plus fortes ou plus profondes. Ce serait désobligeant par rapport à plein de choses qu'on voit en France. Mais non, c'est vrai. Je ne vais pas du tout juger ça, mais c'est clair que c'est une ambition qu'on voit très vite dans des formats improvisés ici. Il y a du fun, il y a vraiment du jeu, etc. On rigole, etc. Mais il y a aussi tout un courant très, très sérieux et qui cherche à faire un certain type de théâtre improvisé, en tout cas.
Ce qu'on disait, plus réaliste, tout du moins. Moins dans la...
Je sais pas comment le dire. Disons que je vois plus de petits groupes qui cherchent à faire des... à jouer un type d'improvisation vraiment pas spécialement drôle.
Et donc, ça fait depuis le 2017 que la Libère existe, si j'ai bien fait mes devoirs. Comment est-ce qu'elle a évolué depuis ce temps-là ?
On était un peu moins. Après, la vocation... Marjorie Nadal est toujours dans l'histoire. Et la vocation, c'était beaucoup d'initiation. C'est de l'initiation, de la transmission. Et de la rencontre. On fait les matchs d'improvisation pour ça. Moi, j'aime bien le terme de rencontre d'improvisation aussi, et je crois que c'est très vrai. On a cette vocation, et cette vocation, on l'a gardée. Donc, on a de l'initiation, et y a d'autres groupes qui sont nés de ça aussi au fur et à mesure. Donc, on retrouve des joueurs un peu partout, qui essaiment, des petits groupes qui sortent. Et ensuite, comment elle a évolué au cours des 3 années? Elle a grandi plutôt. Elle s'est orientée encore davantage vers le franco-allemand. On a une coach qui est allemande et qui joue dans plusieurs groupes à Berlin et qui assure la moitié des ateliers, par exemple, pour donner une idée, vraiment en allemand, alors que c'était vraiment tout à fait minoritaire au départ, et qui nous oriente vers un jeu plus émotionnel, et donc en allemand principalement, et qui ne comprend rien à ce qu'on joue quand on joue en français, puisqu'elle ne parle pas français. Donc que ça a un côté, moi j'aime beaucoup cette ouverture et cette façon de diriger, et un jeu plus émotionnel, et on avait fait juste avant la grande fermeture, on avait fait un premier long format basé globalement sur le voyage du héros, toujours en franco-allemand. C'était une des évolutions en cours. Et une des grandes évolutions, c'est vraiment de jouer de plus en plus avec d'autres groupes.
D'accord.
On joue au moins une fois par mois, plutôt plus. Et on avait 4 voyages prévus cette année en France, notamment. Plusieurs groupes qu'on recevait de France, on a eu le temps d'en recevoir un qui est vraiment venu de France, plus d'autres groupes berlinois qu'on a rencontrés.
Donc une programmation quand même assez étoffée.
Ouais, on essaye. Et on est passé sur Arte, alors on est très fiers. On est passé sur la chaîne franco-allemande. Depuis le temps qu'on se dit que quand même la culture franco-allemande, c'est nous. on est passé à la télé. Maintenant, on peut écrire à vue à la télé. Non, mais ça vient mettre en valeur à un long travail. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on fait ça.
Oui, bien sûr.
Qu'on espère que c'est une qualité de rencontre, en tout cas, qui est
évidemment. Et je voudrais revenir justement sur les ateliers d'initiation dont tu parlais. Pour n'importe qui, que ce soit un francophone ou un germanophone à Berlin qui souhaiterait se lancer dans l'improvisation, il peut passer par vous, il peut passer par d'autres structures éventuellement. Est-ce que c'est accessible en termes de jeu, ou est-ce que ça prend pour jouer sur une scène d'improvisation à Berlin, c'est envisageable?
C'est une question intéressante parce que je ne me la suis jamais posée comme ça.
Toi, quand t'as voulu faire de l'improvisation, toi personnellement, à l'époque?
C'est un atelier. Une des spécificités qu'on a un peu, c'est qu'on fait vraiment des ateliers à l'année, c'est-à-dire qu'on fait une saison d'ateliers. On se tient à ça globalement. On s'inscrit en septembre et on est de septembre à juin là. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de soutenir et d'appliquer de cette façon-là, parce que c'est une des meilleures façons, si possible, d'avoir une belle dynamique de groupe, que les gens se connaissent, que les gens se fassent confiance, qu'ils fassent confiance à eux-mêmes et qu'ils fassent confiance aux autres, et que comme ça, on puisse être amené à jouer de façon plus libre. Mm-hmm. Et libère et libre, c'est pas loin, et c'est pas pour rien. Donc quand on arrive et qu'on s'inscrit en septembre, c'est déjà imaginé, prévu, ouais, qu'on aille sur scène à partir de, ça peut être février, mars, avril, ouais, et qu'on fasse des rencontres entre nous ou avec d'autres. Ou, a priori, si c'est un atelier, si c'est vraiment des débutants, ce sera plutôt entre eux au départ, avec un staff qui soutient ça et une scène appropriée. On a un petit théâtre avec qui on travaille depuis des années et des années, et qui nous donne un bel espace pour faire ça.
Donc ça vous permet en fait de recruter de nouveaux membres et que ça puisse rouler en quelque sorte.
Oui, les matchs d'improvisation amènent ça aussi, c'est clair. Les matchs en tant que tels, le bouche à oreille des participants, c'est des choses qui bougent. Il y a un public pour ça, il y a un public, ouais, français, francophone, important à Berlin.
Ouais, la communauté francophone est importante.
Ouais, ouais. Je ne veux pas dire de chiffres faux, donc ne demande pas de chiffres. je ne sais vraiment plus, mais je sais que c'est une grosse communauté. Ouais. Ce que je trouve personnellement plus compliqué, justement par rapport à cette idée d'être dans la durée, c'est de trouver des participants qui ont envie de s'engager sur un an, ou qui arrivent à s'engager sur un an, au sens où les parcours sont de plus en plus mobiles, où on est moins habitué aussi à faire des choses sur le long terme. On a envie d'essayer et puis de repartir parce que voilà, ouais, on a fait 2 mois d'impro, ça va quoi, ça va, on a compris. Et c'est dommage parce que plus on joue et plus on fait les ateliers et plus on se rencontre et plus ça devient plus le plaisir bien intense, je trouve. Ouais.
Est-ce que pour toi, je te pose cette question parce que moi, personnellement, je suis passé par cette étape en arrivant au Québec. Quand j'ai commencé à faire l'improvisation, c'est là vraiment que ce que je vais appeler ma vie sociale a décollé. Ce qui m'a permis justement de sortir du cadre. Souvent, on a tendance à être entre Français, à se retrouver dans une communauté française, puis de ne pas sortir de là. L'impro, personnellement, m'a permis de voir d'autres choses et de rencontrer justement des Québécois et d'autres personnes aussi. Est-ce que pour toi et pour éventuellement les membres de votre troupe, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi?
Alors, c'est très particulier. C'était, comment dire, je pense que le théâtre francophone a fait ça pour moi à Berlin. C'est très parti. Enfin, dans mon cas particulier, je connaissais très très peu de français avant de commencer à faire du théâtre en français ou en franco-allemand. C'est-à-dire que je connaissais beaucoup d'étrangers, mais pas spécialement d'étrangers, donc par rapport à l'Allemagne, hein. Mais pas tant de français que ça du tout. Et par contre, à partir du moment où j'ai mis un pied là-dedans, là j'ai commencé à en voir beaucoup beaucoup beaucoup. Donc c'est un processus, voilà, c'est pas un processus spécialement classique, mais c'est clair que le théâtre et le théâtre d'improvisation créent des liens forts. C'est des liens continus, c'est le plaisir de faire ça sur une saison, c'est clairement ça aussi. Mm-hmm. Je pense que les gens recherchent ça et sont heureux de ça aussi. Oui.
Puis je te cache pas qu'il y a quand même aussi beaucoup de Français qui en font. Qu'on retrouve dans le milieu de l'impro à Montréal. Donc, on se retrouve là aussi, ça n'empêche pas. Mais...
On a une invitation pour jouer en octobre, mais on n'y croit plus trop, malheureusement.
Ah, c'était où?
C'était à côté de Québec, et c'était mon Dieu, je vais te dire ça tout de suite.
C'était un tournoi
C'était un grand tournoi. Le paradoxe, absolument. C'était le paradoxe. Enfin, je ne veux rien vendre. C'est un scoop, mais j'espère qu'on le fera, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Et on songe beaucoup à faire un tournoi d'improvisation aussi. Un festival d'improvisation, tournoi d'improvisation, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais je pensais effectivement plus au format français qu'au format québécois qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc, quelques équipes et tout le monde rencontre tout le monde.
Quand vous formez des nouveaux joueurs à cet aspect-là, c'est quoi la démarche explicative? pour justement leur faire relativiser cet aspect compétitif?
C'est plus des détails, mais c'est de dire aussi, c'est de dire que le match, c'est un vecteur pour se rencontrer, c'est une rencontre d'improvisation. Ensuite, c'est de dire que le public vote n'importe quoi. Donc, c'est pas si. J'exagère un peu. Je le pense pas tout à fait, mais je le pense un peu quand même des fois.
Oui.
J'ai fait beaucoup MC, j'ai fait beaucoup arbitre, et des fois, je vois le public voter, et je crois que j'ai pas vu la même chose qu'eux. Donc, je leur dis ça la détend. et le plaisir passera pas par là, quoi. Le plaisir passera pas par là. Alors après, si on est dans une équipe ou dans un groupe qui perd à chaque fois, ça va être pénible au bout d'un moment. Mais le plaisir ne passe pas par la victoire. Oui, ça fait plaisir que les gens votent pour soi, mais c'est un très bon exercice pour l'ego.
Exactement, voilà. C'est ce que j'allais dire. Ok.
Voilà, mon expérience et notre expérience et comment on vit, je crois.
Et comment est-ce que vous abordiez justement enfin, si jamais ça doit se faire, puis je vous le souhaite là, ce tournoi à Lévis, comment est-ce que vous l'aborderiez?
En fait, ce qu'on sait aussi, c'est que je reviens là au multilingue, c'est que on est lent.
Okay.
C'est-à-dire que pendant longtemps, on a joué sans caucus du tout, parce que le malentendu et l'incompréhension fait entièrement partie de comment on joue. On ne va pas comprendre tout ce que dit l'autre. L'autre ne va pas comprendre tout ce qu'on dit nous parce que on n'a pas la même langue, exactement pas au même niveau en tout cas, quand on joue. Du coup, on promeut aussi beaucoup le gros mot, le jeu muet, c'est des catégories vraiment, quand on dit catégorie linguistique chez nous, c'est allemand, français, franco-allemand, donc on change de langue aussi que de l'arbitre, muet. Musical, grommelot, voilà, tout ça, c'est nos catégories linguistiques. Et on est habitué à se découvrir beaucoup sur scène et à prendre le temps. Et quand on a joué avec d'autres équipes plus rodées au match ou plus habituées, on voyait qu'ils posaient leur situation 10 fois plus vite que nous.
Ouais.
Donc nos attentes, je pense que, enfin, par rapport à ceux qui partent à chaque fois ou quand on reçoit des équipes françaises, c'est qu'on sait, il va falloir être un peu plus rapide.
D'accord. Ouais.
On sait qu'il faut accélérer un petit peu notre jeu et que c'est normal et qu'il ne faut pas craindre ça. Ce qu'on aime beaucoup quand on reçoit les équipes françaises, c'est de les faire jouer dans les autres langues aussi.
Ouais.
Et on aime bien quand elles aussi essayent de faire ça, quand elles nous accueillent, ce qui s'est fait. On a joué à Bordeaux. Avec la Liqueur, qui est une ligue historique en Bordeaux, et c'était un grand plaisir. Et ils nous ont fait le bonheur aussi de nous proposer quelques jeux en allemand.
Ça me fait la transition parfaite pour ma question suivante, justement.
Mais à ton service, Armand.
la perche est parfaite. Je voulais savoir la différence de la façon de jouer, si je peux dire. Toi, personnellement, quand tu switches du français à l'allemand, éventuellement à l'anglais, est-ce que tu trouves que ton jeu est le même ou il y a vraiment une différence même dans la façon de réfléchir? Je sais que j'ai pris quelques cours d'allemand quand j'étais au lycée, mais j'en ai pas gardé grand-chose. Mais je me souviens que c'était vraiment une langue très structurée. C'est peut-être pour ça que j'ai abandonné à un moment donné, d'ailleurs. Mais est-ce que ça influence vraiment ton jeu?
Oui, je suis sûr que ça influence ton jeu. Je suis sûr qu'on est différent dans sa langue maternelle et dans une autre langue. La spécificité du théâtre improvisé, du théâtre, c'est de jouer des rôles tout le temps. Donc, ça rajoute une couche à tout ça. Mais oui, on joue différemment en français et en allemand. En ce qui me concerne, moi, je suis traducteur de métier, donc c'est assez particulier parce que je suis habitué à utiliser les deux langues tout le temps. Donc, je dirais que spontanément, j'ai pas le petit mouvement de recul que peuvent avoir d'autres joueurs français quand ils vont jouer en allemand. J'y vais, quoi. Après, je ne comprends pas tout, je ne dis pas tout comme il faut, mais on joue un personnage, on joue une émotion, on joue une situation. la langue dans laquelle on fait, en tout cas dans ce cas-là, ne me dérange pas trop. Par contre, quand je joue en italien ou quand je commence à jouer dans d'autres langues que je maîtrise moins, là oui, ça peut. Là, on cale, quoi. On cale, mais on cale sur la langue et on sait qu'il faut jouer d'autant plus physique, faut jouer d'autant plus sur l'émotion. On prend d'autant plus le temps. De toute façon, on ne peut pas parler correctement, donc ce n'est pas la peine d'essayer de faire du Shakespeare en du Goethe. On ne va pas y arriver. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une école formidable pour tous les joueurs qui parlent trop. Vous venez faire l'impro dans une école. Vous allez voir que quand le sifflet va retentir et qu'on dit bah, « Continue ton personnage maintenant en allemand, en brit. Ouais. » Tu vas te taire, tu vas écouter, tu vas regarder ce qui se passe autour de toi. Au lieu de tout maîtriser par la parole, parce que c'est un instrument de pouvoir très fort aussi. J'aime bien ça, en tout cas. Ce qui est très clair, c'est que ça promeut ça. Ça promeut un jeu plus physique, ça promeut de prendre davantage de temps.
Vous avez votre propre podcast que vous diffusez en ce moment sur Facebook et d'autres plateformes. Est-ce que vous avez des projets de spectacle, justement, audio, par exemple?
Non, pas directement. C'est une des choses qui nous a amené à faire ce qu'on appelait les rendez-vous de l'impro, c'est-à-dire interroger des spécialistes de l'impro de leur expérience et de leur vécu. C'est-à-dire que personnellement, moi, j'étais pas chaud pour animer des ateliers par vidéo. C'est très difficile. Comment dire, c'est vraiment. C'est aussi une question philosophique presque, c'est-à-dire qu'on a des ateliers fondés sur le groupe et fondés sur le corps. Donc, quand on sabre les deux, parce qu'un groupe sur Zoom, c'est moyennement un groupe quand même, c'est beaucoup de petites fenêtres les unes à côté des autres. Comme le groupe préexiste, oui, il y a des choses qui peuvent se faire et il y a sans doute des choses très belles qui sont faites comme ça. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu envie de continuer à diriger ou faire diriger des ateliers autour de ça. Ça a été une décision un peu comme ça, et que comme on fait du multilingue aussi, comme on se comprend pas par la parole, toujours si on fait que des trucs sur la parole, c'est un peu, ça devient un peu trapu.
C'est un plus gros défi en effet.
Mais j'ai interrogé, on a fait une interview avec un Américain qui est à Berlin aussi, qui s'appelle Robert Rogers, excusez-moi, les R. De Scratch Theater, et ils ont développé un format que je trouve formidable, qui est un format radio qui a une qualité déjà technique qui est très forte, et puis c'est des gens qui sont habitués justement à raconter des histoires et qui arrivent à les raconter même à distance les uns des autres, juste en s'écoutant, et avec un musicien virtuose, vraiment un excellent musicien qui raconte des histoires, et là on se laisse porter parce que c'est la voix, et c'est un peu inspiré de la radio des années 30 à années 40, quoi. Quand on se retrouvait le soir pour écouter une émission ensemble.
Il n'y a pas l'image encore.
Ouais. la voix, ça porte, c'est clair.
Je voulais revenir un petit peu sur, on l'a abordé pas mal, mais sur cet aspect multiculturel, encore une fois. Donc, tu as parlé du fait que vous ayez des gens de différentes origines qui font partie de la troupe, qui viennent voir les spectacles éventuellement aussi. C'était le but même, la mission de base de la troupe?
Oui, le premier atelier d'impro multilingue de Marjorie Nadal à Berlin, et c'était à l'université au départ, et c'était, ça faisait vraiment partie d'une démarche de recherche sur le théâtre improvisé comme outil d'enseignement et d'apprentissage d'une langue étrangère, le français en l'occurrence. Faire du théâtre improvisé dans une langue étrangère, qu'est-ce que ça produit, comment on s'approprie une langue par ce biais-là, et ça a continué. C'est-à-dire que effectivement il y a la LIBER, il y a la Ligue d'improvisation de Berlin, donc les matchs multilingues, les rencontres multilingues, et à côté de ça il y a Théa Lingua, auquel on est rattaché, c'est là Théa Lingua, théâtre et langue, qui est un centre et une équipe d'intervenants qui vont dans les écoles pour faire du français par le théâtre.
D'accord. Okay.
Et qui forment aussi des professeurs, des animateurs à ces techniques-là pour permettre de transmettre les langues étrangères par le théâtre.
Ça m'intéresse énormément, justement, cet aspect-là. Est-ce que, à partir de ses recherches, c'est quoi les principaux enseignements qu'elle a pu déceler?
Oui, oui, bah je fais aussi partie de leur équipe.
Ouais.
C'est un peu les mêmes. Alors, c'est pas les mêmes finalités, évidemment. Mm-hmm. Il y a des finalités très très pragmatiques pour certains professeurs qui cherchent simplement à ce que leurs élèves prennent la parole, etc. Mais je crois que ça va un peu au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est basé sur à la fois le corps, le collectif et l'engagement. C'est-à-dire qu'on veut que les jeunes s'approprient une langue dans leur corps. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas le plus important, ça va pas être de faire des phrases très longues ou très compliquées ou de les faire correctement, mais que ce soit les leurs, que ce soit les phrases des élèves, des jeunes, que vraiment ils se disent, ok, j'ai dit, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je l'ai dit en pleurant, je l'ai dit en criant, je l'ai dit avec colère, je l'ai dit avec une joie intense, et c'est devenu mon texte. Et puis je l'ai dit avec tout mon corps. Ma langue, c'est pas juste dans ma tête, c'est pas juste papier, c'est quelque chose que je vis dans mon corps. Mmh. Et puis je l'ai vécu avec un groupe, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble à partager ça. On ne fait pas des solos les uns après les autres, on va ensemble faire des effets de groupe, des effets de cœur, des effets qui vont permettre de mettre en valeur ça. Et puis c'est l'engagement, c'est-à-dire que, et c'est là aussi où ça se diffère un peu de l'improvisation, c'est-à-dire qu'ensemble ça va être, les élèves vont faire de la création théâtrale. Mmh. Ils vont se mettre ensemble pour faire une scène ou pour faire un petit spectacle, etc. Et il y a ce projet-là qui va les tenir et qui va leur donner envie d'aller au bout et de s'approprier les quelques phrases qu'ils auront peut-être dans le spectacle, de répéter avec entrain le texte du personnage principal d'une scène. Ces piliers-là sont hyper importants en improvisation,
ouais,
et amènent les jeunes vers autre chose,
ouais, dans
leur processus de langue.
Et je trouve ça génial. Et en fait, vous avez développé des procédés pédagogiques à travers cette discipline théâtrale, improvisée ou non.
Absolument.
Et les résultats, en général, ça, sur, je ne sais pas si on peut appeler ça vos étudiants.
C'est très complémentaire à un enseignement académique, et c'est très différent. Mm. Et c'est une opportunité très claire de s'approprier quelque chose. Ça devient, ça fait partie entièrement de l'œuvre. Souvent, les professeurs m'ont dit, ah, c'est marrant, parce que lui, vraiment, d'habitude, ben oui, lui, normalement, d'habitude, il est assis à une chaise à son bureau. Et là, c'est, on a besoin de la participation des élèves. Enfin, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans. On ne peut pas imaginer faire 1h30 avec 15 participants dans une salle qui sont tous debout en cercle et où ils font rien. On va leur donner envie, petit à petit, de faire quelque chose ensemble.
Ouais. Et je vais te poser une question dont je connais peut-être déjà la réponse, mais est-ce que tu penses que c'est un outil dont devrait...
Je pense que ça devrait être partout, dans toutes les écoles du monde. C'est ça, d'accord.
Exact.
Oui, je pense ça, évidemment. Je pense ça, évidemment, profondément. Je pense ça, je pense que les enseignants eux-mêmes ont à gagner, à aussi engager davantage leur corps dans l'enseignement. Il y a plein de choses à trouver dans l'espace de la classe, autour de ça, autour d'une autre configuration de l'espace. Le théâtre, c'est de l'espace aussi. C'est un corps, c'est un espace. Et c'est sûr que c'est des choses qui sont transmises par le théâtre, en tout cas, que le théâtre peut amener. On a développé un livre autour de la théâtralisation des contes, comment faire un conte avec des élèves et le transformer en pièce de théâtre. Là, je sais qu'il y a un livre en cours de préparation aussi autour de ça, autour du corps de l'enseignant et du corps de l'élève.
Okay.
Dont tu
fais partie du projet ?
Je ne fais pas partie directement du projet, je les assiste un peu au niveau administratif, des choses comme ça, mais je ne suis pas du tout sur le fond. C'est une équipe pluridisciplinaire avec des comédiens, des pédagogues, des professeurs qui développent ce projet. Pour moi, ce qui est très important et ce qui est remis en question aussi par la période actuelle et qui m'angoisse, c'est la négation des corps et le fait de se dire ah bah oui, finalement, enseignement à distance, c'est super, hein, tout le monde est chez lui, ça coûte moins cher, ça marche très bien finalement. Ouais. Et puis les grosses boîtes vont être ravies de fonctionner comme ça et de faire des économies comme ça, et c'est une catastrophe. Enfin, c'est déjà difficile pour globalement de tirer son attention d'un écran, et moi le premier, hein, enfin, un smartphone, c'est attirant d'une certaine façon. Mais la relation des élèves entre eux, la relation des élèves avec leurs professeurs, c'est quelque chose de primordial et de fondamental.
Ouais.
Enfin, c'est ça, devenir un être humain, c'est ça aussi. Et c'est... on ne va pas à l'école que pour apprendre des matières.
Ouais, et puis être en contact social.
Et en contact physique, là. C'est-à-dire qu'on nous explique que s'aimer, c'est être à distance, que faire attention à l'autre, c'est surtout pas le toucher. Et c'est un peu orwellien quand même. Dans le, je comprends évidemment l'aspect sanitaire, c'est pas la question. Mais ça fait beaucoup penser à l'amour, c'est la haine, ou la paix, c'est la guerre. Quoi. C'est compliqué comme discours. C'est
bien sûr.
On entend beaucoup là.
Ouais, on a tous hâte de revenir à la normale, là, de pouvoir justement se recôtoyer et échanger directement à nouveau, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en même temps ça ouvre d'autres opportunités, je pense, que ce soit même pour les spectacles, on l'a vu à quel point ça, il y a des nouveaux projets qui naissent et qui se développent, même des choses, moi je, par exemple j'en donne des ateliers à distance en ce moment, et il y a des choses qu'on essaye, mais que je me dis ça pourra potentiellement être réutilisable dans un spectacle physique par la suite. Donc ça, des choses qu'on n'aurait pas éventuellement expérimentées, donc je trouve ça intéressant. C'est sûr que j'ai hâte malgré tout qu'on revienne à la normale.
hâte qu'on crée tous la nouvelle normalité et que on ne soit pas uniquement à base de distance, en tout cas.
Pour ce dont tu me parlais, donc de votre démarche pédagogique, est-ce que vous bénéficiez justement d'une certaine reconnaissance au niveau je sais pas, des services publics ?
On a pu avoir quelques subventions. Disons que la structure en tant que telle est reconnue d'intérêt public. C'est-à-dire qu'on a reconnu que ce qui n'était pas, un grand prodige non plus. Hein, on fait de l'éducation culturelle. Il était obligé, entre guillemets, de reconnaître l'intérêt public. On ne fait pas de profit. Voilà. Après, on est dans une situation assez particulière en Allemagne et à Berlin, puisque on est une structure francophone à la base, et on est principalement porté sur l'enseignement des langues étrangères et du français. On n'est pas forcément hyper porté du côté institutionnel, enfin soutenu. Nos sources de revenus dépendent essentiellement des écoles qui font appel à nous, ou des enseignants qui ont envie d'être, ou des comédiens aussi, qui ont envie de se former à la partie pédagogique. Nos revenus viennent des participants en très grande majorité.
D'accord.
On a des allègements fiscaux, des choses comme ça, mais on n'est pas spécialement subventionné. Voilà. Et c'est financé en général sur des fonds publics classiques, quand on vient dans les écoles, etc. Mais c'est... là, on vient à une différence entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire que les écoles ont beaucoup plus de liberté là-dessus.
Est-ce que tu sais s'il y a un équivalent du projet du trophée Impro et Culture et Diversité qui se fait en France entre différents établissements scolaires?
Trophée d'impro des collèges, non, un truc comme ça.
Ouais,
je connais pas bien le. En fait, pour tout te dire, j'ai découvert ce projet dans un podcast de mon intervenante française.
Ouais.
Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça existe en Allemagne. C'est pas très connu. Encore une fois, le match, le tournoi, c'est quelque chose d'improvisation. Comment dire, l'improvisation théâtrale, c'est une niche. Hein, le match d'improvisation ici, c'est une niche dans la niche. Quoi.
Ouais. C'est tout petit. Donc au final, c'est en plus une activité qui se commence plus tard, en fait.
Oui.
Chez vous.
Oui. Je pense qu'il y a accès à plein de disciplines artistiques dans les écoles, mais pas spécifiquement l'impro.
Je pense que c'est
en berlinoise, une fois encore. Hein. Je suis à Berlin et c'est ce que je connais.
Est-ce que tu penses que ça pourrait tendre à évoluer, ça, ou il y a des initiatives qui sont prises éventuellement dans le milieu de l'impro, ou ça reste vraiment très niché encore?
C'est une scène extrêmement vivante à Berlin. Moi, je dirais que, enfin, il y a un festival extraordinaire qui s'appelle le BIM, le Berliner Impro Marathon. Donc, un
OK.
marathon d'improvisation, ça commence à 18h, ça finit à 4h du matin. Et ils avaient compté qu'il y avait une centaine, probablement plus, ils s'étaient arrêtés de compter à 100 troupes d'improvisation à Berlin.
D'accord. Ah oui, c'est oui, c'est
Oui,
divers. C'est
c'est vivant,
ouais.
mais c'est aussi très dispersé. Il y a quelques, enfin, il y a des pionniers qui sont là et qui ont des noms, mais je ne vois pas quand il n'y a pas d'association, par exemple, de la taille de ce qu'il y aurait en France. Du tout. Du tout. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Les joueurs peuvent se retrouver dans plusieurs groupes en même temps. C'est plutôt, je dirais pas que c'est la norme, mais c'est assez fréquent. C'est assez dispersé, quoi.
Bah, je pense que c'est un petit peu l'équivalent de ce qui se fait au Québec. Bah, c'est vraiment là aussi très diversifié en termes de style, de calibre, de taille aussi, comme tu le mentionnais. Puis,
J'imagine qu'il y a quand même des associations grosses. Enfin, quand je dis grosses, c'est plus de. Ouais, quand je dis qu'on est 30, les gens disent Ah, 30, mais c'est énorme!
Ouais, bah.
Je pense qu'en France, c'est 30, ils trouvent ça normal. Enfin, c'est des.
Ben, je te dirais, oui, c'est ça au Québec, c'est vraiment ce qui prédomine, donc c'est le format de la ligue, donc des groupes qui font leur recrutement en début de saison. Ça change, la composition des ligues change à chaque année, et c'est une vingtaine de personnes. Donc là, ils font leur match une fois par semaine, les équipes qui se rencontrent, c'est le format qui existe le plus. Il y a des organisations comme justement type la Rocambolesque ou un Pro Montréal qui ont une communauté qui est un peu plus élargie. Donc nous, on parle d'une soixantaine, 70 de personnes. Et là pareil, on dispatche nos membres selon les spectacles et on fait rouler ça. La plupart des ligues, c'est vraiment, se trouve une scène dans un bar, un cabaret spectacle et joue là pour faire vendre de la boisson au diffuseur. Puis l'arrangement marche très bien comme ça permet. Ce que je comprends, c'est que c'est un petit peu la même chose à Berlin.
C'est plus petit. Enfin, à Berlin, il y a des ateliers, il y a peu d'ateliers sur l'année, tiens. Les ateliers sont proposés sur 8 semaines, etc. Donc il y a vraiment des troupes professionnelles ou mélangées professionnels amateurs, mais c'est des troupes de. Je pense que s'ils sont 10, c'est déjà énorme.
Ouais,
En général, c'est plutôt moins. C'est des petits groupes d'improvisation qui fonctionnent. Énormément de spectacles d'improvisation sont basés sur 5 personnes, finalement, 5 joueurs, et c'est fini. À 6 contre 6, plus avec MC, arbitre. Nous, on a des traducteurs parce que sinon, on ne comprend rien. Donc, on traduit tout ce que dit le MC, on traduit tout ce que dit l'arbitre.
wow.
Les gens trouvent que c'est. Enfin, ils sont pas loin de nous dire c'est n'importe quoi, il y a beaucoup trop de monde sur scène. Alors que c'est un classique. C'est le classique du classique, en fait.
Ok, mais ça, je suis super intéressé à savoir ça se passe comment un match bilingue. Donc, tu dis, vous avez des traducteurs.
Oui.
Est-ce que c'est un joueur dit une phrase en allemand, par exemple, puis il y a quelqu'un qui au micro qui traduit? Comment ça fonctionne?
Oui, il y a deux aspects. Deux aspects. Il y a tout ce qui est le staff.
Ouais.
Le staff est traduit. Donc le MC est traduit et l'arbitre est traduit. Alors il se peut que ce soit. Enfin, on a créé un peu le personnage du traducteur qui traduirait tout. Ces rôles-là, qui traduit ce que dit le MC, qui traduit ce que dit l'arbitre. Ça peut être un rôle joué aussi par un arbitre qui va traduire. Un assistant arbitre va traduire l'arbitre principal, par exemple. Ce genre de choses. On peut avoir des duos franco-allemands, des choses comme ça. Ça, c'est le staff. Il faut que le public allemand et français comprennent ce qui se passe. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a des équipes, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, etc. Pour qu'elles comprennent ça. Ah, ok, on va avoir une improvisation type film d'horreur. Ok, 2 minutes. Ok, ça j'ai compris. Ben, très bien. Après, l'improvisation se joue et l'improvisation, elle n'est pas traduite. L'improvisation, c'est un peu ce que je disais sur le côté ne pas se comprendre. On va poser des formats et on va voir les joueurs se débrouiller avec la langue qu'ils maîtrisent ou pas, au moins. Pas du tout.
Et donc
Et on va les voir.
l'arbitre mentionne si l'impro sera en français ou en allemand
Oui,
avant chaque, ou c'est en alternance.
c'est vraiment notre spécificité. On essaie d'équilibrer entre le français et l'allemand. Plus de saupoudrer beaucoup de gros mots, de muets, de musicales, de choses comme ça. On essaie que tout le monde y trouve son compte et que le public puisse se dire, ok, je suis français, mais je ne suis pas désavantagé quand je vais voir ce spectacle, ou je suis allemand, mais je ne suis pas désavantagé quand je vais voir ce spectacle. Je ne vais pas avoir des Français baragouiner entre eux et me laisser complètement en dehors de ce truc-là, non.
Ouais.
Le spectateur allemand va comprendre ce qui se passe et va comprendre 50% en tout cas du texte. Et avec un peu de chance, 90% des impros, si elles sont très bien jouées et qu'on comprend, même sans comprendre le texte, on comprend les relations des personnages entre eux, qu'on
Ouais.
comprend ce qui se passe, ce qui se joue sur scène.
D'accord. Et les comédiens le savent, ça, qu'il y a cet aspect-là à prendre en compte, j'imagine.
Oui, bah, et puis ce qui est toujours bien, c'est de toute façon, ils sont régulièrement lancés dans l'eau froide, c'est-à-dire ceux qui parlent très bien français et qui disent, ah super, je suis dans le français, je vais bien m'éclater. Oui, tu vas t'éclater, mais là, tu vas jouer dans une improvisation allemande et il va falloir que tu. Une fois encore, il va falloir que tu joues la scène. Il va pas falloir que tu la racontes, il va falloir que tu la joues et que tu la comprennes. Et de la même façon que les spectateurs, je pense, aiment voir les improvisateurs se débrouiller avec des choses inattendues et surprenantes, je pense qu'il y a un plaisir de voir des joueurs ne comprenant pas ce qui se passe jouer quand même et faire comme si. Et oui, si, si, je comprends. Et tu sais bien que dès qu'il ouvre la bouche, que tu l'entends dire une phrase en allemand, tu entends la phrase et tu fais lui, il parle allemand depuis 2 mois, lui. Mais c'est pas grave. Il a continué la situation. Il a joué le plombier. Il a continué à réparer les trucs.
Mais c'est une situation qui m'était familière à mes débuts, justement, au Québec, à Montréal.
En québécois.
C'est parfois. Quand on se retrouve sur scène, c'est sûr que, bon, encore une fois, maintenant ça va, là, j'ai plus aucun problème à ce niveau-là, mais mes premières scènes, j'ai du souvenir de ne pas comprendre du tout, que ce soit en caucus ou même sur scène. Et
Ouais.
encore, ça forme à la dure, on va dire, mais ça forme. Donc, c'est une expérience qui me retenterait vraiment beaucoup, je pense. À la fois en tant que même que spectateur, là, ça serait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ça, du plaisir, au-delà de l'artistique, en fait.
Oui, il y a cette expérience-là, et au niveau de l'artistique, il y a une tendance que je trouve intéressante qui est d'aller vers l'universel, c'est-à-dire de ne pas faire, de pas jouer trop sur les références culturelles, trop mono-région, mono-langue, mono-pays, c'est-à-dire on va aller, il va falloir aller plus loin parce qu'on ne va pas comprendre, moi je sais, on ne va pas développer l'imaginaire autour d'un dessin animé qu'on regardait quand on était petit dans les années 80, parce que mon partenaire n'a pas vu ce dessin animé, il ne sait pas ce que c'est. Donc il va falloir jouer sur qu'est-ce que c'est d'être frère et sœur, qu'est-ce que c'est d'être employé, salarié, qu'est-ce que c'est d'être ami, qu'est-ce que c'est d'être tout ça, et quelle situation ça amène.
Oui,
Et c'est
ça.
là-dessus, c'est vers ça qu'il va falloir aller, parce que placer une blague et un jeu de mots, ça va amuser 10 secondes. Mais il se peut que mon partenaire ne comprenne pas du tout.
Exact.
Et de toute façon, on ne va pas pouvoir faire que ça, quoi. Il va falloir faire des histoires ensemble.
Puis maintenant que tu le dis, en fait, je pense que c'était même l'une des principales barrières au début qui m'empêchait de comprendre
Sûr.
certaines scènes.
Les accents, etc., on zappe
Ouais.
quasiment. On joue avec l'accent berlinois parce qu'on est bien obligé. Enfin, on est là, quoi. Donc on voit à peu près ce que c'est. Mais on sait qu'on ne va pas pouvoir faire ce spectacle là-dessus, quoi. C'est pas possible.
Eh ben. Mais ça m'intrigue énormément. Puis encore une fois, je serais très curieux de voir ce que ça donne. Si
On a un
jamais.
projet, du coup, sur ce sujet, pardon, on a un projet qui devrait arriver fin septembre, on espère, avec les instituts culturels d'Europe, où on mélangera véritablement, on va essayer 7-8 langues, où tout le spectacle sera fondé là-dessus, vraiment. Et sur énormément de langues. C'est un spectacle dont on espère qu'il aura lieu pour la journée des langues, voilà, avec des improvisateurs de Berlin, de plein d'origines et de traditions différentes.
Je vous souhaite bien du succès avec ça parce que c'est tout un projet. Puis encore une fois, sûr qu'il y a énormément de choses à découvrir, peut-être même des aspects dont vous attendez pas. Sept langues, 7, 8 langues, c'est tout un défi.
Ben, on est sûr qu'on ne les parlera pas toutes. On sait dès le départ qu'on aura beau avoir quelques vignes des langues au milieu, il va falloir être clair dans ce qu'on fait et dans ce qu'on joue.
Bon, ben ça fait déjà une, ça fait combien de temps? Ça fait presque 1 heure qu'on discute.
Merci beaucoup.
Ben, merci à toi
Merci
d'avoir.
beaucoup.
Pardon.
Merci de cette invitation. Pardon. Merci beaucoup de cette invitation. Vraiment, c'est
Ouais,
très aimable à toi. Et je vais écouter avec plaisir ces podcasts aussi.
ça...
On est des bébés podcasts. On a fait 4 interviews. La moitié, la technique est partie en
Ah,
sucette.
on a eu quelques soucis aussi.
Si
Ça nous arrive encore, mais on s'adapte, on improvise, voilà.
tu veux.
Et que merci beaucoup d'avoir accepté. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite dans vos projets.
Ben, pareil à vous, pareil à le rocambolesque, alors.
Et au plaisir de potentiellement se recroiser
Mais oui, au plaisir de se toucher, hein.
dans une langue ou dans une autre.
Dans une langue ou dans une autre. Mélanger tout ça.
Bon, ben, bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt.
Bonne soirée, bonne suite de journée. Hein. Ciao.
Impro Blabla est un podcast proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et les autres plateformes d'écoute dédiées. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque, improvisation traditionnelle et expérimentale.